parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
De l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bienvenue à cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, on aura quelques informations par Nicolas sur une situation assez dramatique dans les bidonvilles, une action en Argentine. Ce sera Nicolas qui nous en parlera. Également, des nouvelles de la Côte d'Ivoire. En fait, plus exactement, un contexte historique pour se donner des éléments de compréhension de la situation actuelle. Vers 9h30, on s'entretiendra avec Émilie Laliberté de Stella pour nous parler de la marche des parapluies rouges, tradition du 17 décembre qui aura lieu à Montréal. On finira l'émission en se parlant d'une manifestation qui a eu lieu samedi passé pour en solidarité avec Monsieur Abou Soufiane Abdelrazik, victime des lois antiterroristes. Et finalement, on finira avec l'anti-hebdo, comme toutes les semaines, pour vous trouver plein d'activités à faire cette semaine à Montréal. Restez avec nous.
Oui, alors Blandine, comme tu le mentionnais, la première chronique porte sur la Côte d'Ivoire. C'est en fait une rediffusion d'une entrevue qui a été réalisée par France Afrique avec David Mauger, chroniqueur pour Billets d'Afrique, qui nous offre une lecture historique sur les acteurs actuels de la crise ivoirienne. Alors, on rappellera que le 28 novembre dernier, à l'issue du second tour de la présidentielle, deux candidats se sont proclamés gagnants. Alors, d'un côté, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a été élu vainqueur selon la décision du Conseil constitutionnel ivoirien, un conseil, il faut dire, que son parti contrôle, alors que la Commission électorale indépendante a déclaré gagnant Alassane Ouattara, le candidat de la dite communauté internationale. Alors, en effet, Alassane Ouattara a reçu l'aval des Nations unies, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et, bien sûr, des États-Unis et de la puissance coloniale en Côte d'Ivoire, la France. Alors, le FMI a par ailleurs prévenu qu'il ne travaillerait qu'avec un gouvernement reconnu par les Nations unies et la Banque mondiale a pour sa part annoncé qu'elle réexaminerait le programme de crédit selon les issues de la crise. Donc, en revenant sur la période historique qui précède l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, David Mauger situe les deux candidats dans l'histoire ivoirienne sans manquer de souligner leur relation avec l'Empire colonial français. C'est donc une entrevue qui est tronquée parce qu'on n'a pas la place ce matin pour la diffuser intégralement. Alors, je vous invite à écouter la suite sur afriradio.net, dont afriradio.net, si vous aimez ce que vous entendez. Donc, je vous laisse avec Laurent Gbagbo, une entrevue réalisée par France Afrique.
est devenue indépendante en 1960. C'est Oufoué qui a été chef d'État pendant un peu plus de 30 ans, puisqu'il il est resté au pouvoir jusqu'à son décès en 1993. La Côte d'Ivoire a été une espèce de façade de la relation France-Afrique pendant à peu près 30 ans. Un certain nombre de pays, en même temps que la Côte d'Ivoire, accèdent à l'indépendance. Maintenant, il faut savoir que ces indépendances sont assorties d'un certain nombre de circonstances qui font qu'elles sont largement fictives. Concernant la Côte d'Ivoire, d'une part, très rapidement, il va y avoir une base militaire française permanente à Abidjan. Cette base militaire, il faut la voir aussi avec des accords de coopération militaire qui vont avec, qui officiellement assurent la défense de la Côte d'Ivoire en cas d'agression extérieure. En fait, ces accords sont aussi assortis d'une convention de maintien de l'ordre qui est secrète, qui très concrètement signifie que, coûte que coûte, la France maintiendra au pouvoir président si celui-ci lui plaît. Ça veut dire que les droits de l'opposition étaient complètement bafoués. Par exemple, le multipartisme qui était officiellement inscrit dans la Constitution n'a jamais été appliqué jusqu'au début des années 90. On va passer sur cette période que les Ivoiriens aujourd'hui, par comparaison, voient de manière relativement positive en majorité, même s'il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Disons brièvement que tous les germes de la crise qu'on a connue après se sont développés sous l'ère d'Oufoué. Celui qui a succédé à Oufoué à sa mort, c'est Henri Conan-Bédier, qui était le président de l'Assemblée nationale, qui était issu du même parti, le fameux parti unique PDCI. Lui a assuré l'intérim du pouvoir jusqu'en 1995. À ce moment-là, il a été élu au cours d'élections qui ont été contestées, notamment du fait de l'idéologie qui avait été mise en place à ce moment-là pour gagner les élections et pour éliminer l'un des prétendants au pouvoir qui était Alassane Ouattara. Au début des années 90, la Côte d'Ivoire a connu une grosse crise au niveau économique. Les cultures de rente comme le café et le cacao ne rapportaient plus autant à cause des prix du marché mondial. Ce qui fait que des institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont pu imposer des politiques d'ajustement structurel à la Côte d'Ivoire. Et celui qui a mis en place ces politiques était quelqu'un issu du FMI. C'est en l'occurrence Alassane Ouattara, qui a donc été nommé Premier ministre alors que Oufoué était vieillissant et il a, disons, assumé l'essentiel du pouvoir. Dans les dernières années d'Oufoué, très concrètement, c'est lui qui a privatisé une bonne partie des services publics ivoiriens qui ont échu du coup à des grands groupes français, notamment Bouygues s'agissant de l'électricité, s'agissant de France Télécom en ce qui concerne le téléphone, et ainsi de suite. Donc il y a eu une privatisation des services publics ivoiriens qui perdure évidemment aujourd'hui. Ce qu'on peut aussi retenir d'Alassane, ou disons ce que retiendra l'opposition ivoirienne d'Alassane, c'est qu'il a assez durement réprimé des contestations qui avaient lieu à Abidjan, notamment des contestations qui étaient menées par le parti d'opposition FPI, qui a d'abord été un parti clandestin, et lorsque, dans les années 90, le multipartisme a enfin été effectif, est devenu un parti au grand jour. Donc, en fait, une manifestation à Abidjan a été, au cours de laquelle il y a eu des violences, bon, que l'opposition pense le pouvoir serait à l'origine de ces violences. Il y a eu l'emprisonnement du chef du FPI, Laurent Gbagbo. Donc ça, c'est quelque chose qui a extrêmement marqué l'opposition ivoirienne et qui du coup colle à l'image d'Alassane Ouattara. Ce premier ministre est apparu comme étant un rival tout à fait crédible au candidat naturel du PDCI qui était Henri Conan-Bédier. Et ce parti PDCI, pour conserver le pouvoir, va mettre en œuvre ce qu'on appelle l'ivoirité, qui était une théorie qui visait à classer les Ivoiriens en différentes ethnies et à les classer, du point de vue des origines, qui étaient des origines complètement fantasmées en fait, à classer des Ivoiriens comme étant certains multiséculaires et d'autres étant des envahisseurs arrivés à tel moment de la période de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça a eu pour effet, d'un point de vue politique, de polariser complètement le débat entre Alassane Ouattara et le PDCI. En 1995, lorsqu'ont lieu les premières élections de l'après-Oufoué, Bédier est élu et il devient très très rapidement impopulaire, hein. À la fois pour des raisons de détournement d'argent public qui se faisait de manière assez peu discrète, hein, à tel point que l'Union européenne s'est crue obligée de protester officiellement par rapport à ces détournements, et aussi du fait de l'ivoirité. Assez rapidement, les Ivoiriens ont compris que c'était des rivalités politiques qui étaient en train d'utiliser des armes absolument dévastatrices et très dangereuses. Pour tout un ensemble de raisons, Bédier s'est trouvé disqualifié. Fin 99, c'est-à-dire un an avant les élections qui étaient prévues pour l'an 2000, Bédier se fait renverser par un groupe de jeunes militaires. Ces jeunes militaires vont chercher un général qui avait été mis à l'écart dans les années 90, qui était c'était le général Gueye. Le souvenir que les Ivoiriens pouvaient avoir du général Gueye était que c'est à lui que Oufouet a demandé de réprimer une contestation étudiante de manière extrêmement violente. Donc voilà le souvenir qu'il a laissé, et par la suite il a été écarté du pouvoir parce qu'on pensait déjà que c'était quelqu'un qui était prêt à renverser le président. C'est lui qui arrive au pouvoir, disons à l'époque de Noël en 1999, proclame comme étant le balayeur, c'est-à-dire qu'il va mettre un peu de ménage dans la maison ivoirienne, promet des élections dans les mois qui suivent, élections auxquelles bien sûr il ne se présentera pas, sauf que quelques mois plus tard, lui-même se dément et annonce qu'il va troquer l'habit du militaire pour celui du candidat. Les Ivoiriens donc vont voter à l'automne 2000. Auparavant, Gueye aura fait voter une nouvelle constitution qui lui permet d'écarter à la fois Bédier, qui a été renversé, la course présidentielle, mais aussi à nouveau Alassane Ouattara. Le seul candidat de poids qui va rester face à lui pour ces élections, c'est Laurent Gbagbo, l'opposant de toujours, celui qui a combattu Oufouet dans la clandestinité, qui finalement va gagner ces élections. Je pense que les Ivoiriens, à ce moment-là, pour une part, il y a ceux qui ne vont pas se déplacer pour voter parce que leur candidat ne se présente pas, mais aussi pour une grande partie, ils ont à cœur d'enlever du pouvoir un général qui, en l'espace de quelques mois, est devenu, s'est transformé. Au départ, c'était le Père Noël. À la fin, c'était quelqu'un qui tentait de rester à tout prix au pouvoir. Donc finalement, Gbagbo va gagner ses élections et accéder au pouvoir. Mais il y a toute l'opposition qui est derrière Alassane Ouattara qui réclame de nouvelles élections, puisque ces élections n'ont pas vu la candidature d'un certain nombre de personnes qui pouvaient prétendre au pouvoir. Gbagbo reste en place, mais lui-même dit que les élections qui l'ont mené au pouvoir étaient des élections calamiteuses. Il y a la mise en place d'un gouvernement d'ouverture pour essayer d'apaiser les choses. Il y a aussi un forum de réconciliation qui est mis en place. Mais en septembre 2002, tout ça ne va pas empêcher une tentative de coup d'État qui va échouer. Lorsque Gbagbo est élu, il faut voir qu'en France, pour le pouvoir chiracien, c'est un symbole extrêmement détestable.
ZEP, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin, tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel, petit donneur de leçons. Petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale?
nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur rime, là de balles. Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, affligeantes. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration, pas la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon, quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leur saloperie, leur loi, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et chaperon à l'aide, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre, tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rassons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers, omniprésent. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. La France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourès. Tu propages, alimentes la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, nous présentent leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Alors, vous écoutiez Nick et la France du groupe ZEP, Z-E-P. Il est 9h17. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. Et on passe avec notre chronique en résistance.
Que de donde son, que de donde son, que son de la barricada, y de donde son, que de donde son, que son de la barricada, y de donde son, que de donde son.
Alors, des nouvelles d'Argentine, plus précisément de la ville de Buenos Aires, directement. Une initiative vraiment intéressante avait été prise par plusieurs, des milliers de personnes, en fait, d'une cité, un bidonville, la cité numéro 20, en fait. Il y a un gros problème en ce moment de pénurie de logements en Argentine, et puis les gens qui sont dans les bidonvilles, évidemment, sont dans des situations absolument précaires et misérables au niveau de ce qui est possible d'avoir comme eau courante, comme électricité, comme maisons qui ne sont pas précaires. Alors, pour faire des pressions contre le gouvernement municipal de Buenos Aires, 2600 personnes de la cité numéro 20 ont décidé de prendre et d'occuper le parc Indio Americano. Et puis, ça, c'était dans le but d'obtenir la construction de plusieurs maisons pour être capable de sortir les gens des situations précaires dans lesquelles ils vivent. Maintenant, ça a vraiment très mal viré. En fait, il y a eu une l'escalade de violence qui a eu lieu depuis mardi le 7 décembre passé. On a commencé par un problème de répression avec la police, évidemment, mais ensuite, le problème le plus grave qu'il y a eu, c'est des milices racistes par les voisins du parc, en fait, qui ont décidé de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils disaient qu'il y avait usurpation d'un terrain que les gens des bidonvilles étaient occupés d'occuper. Et donc, ces gens-là sont descendus dans le parc et ont décidé de essayer de sortir les gens qui occupaient le parc. Ça a généré des violences vraiment graves. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les bidonvilles, il y a énormément de gens qui proviennent de la Bolivie et qui proviennent aussi du Paraguay, qui se retrouvent en Argentine dans des situations, comme je disais tantôt, très précaires parce qu'ils n'ont pas accès à énormément de travail ni à tous les droits publics qui sont offerts à la majorité de la population. Et il faut rajouter à ça qu'en Argentine, tristement, dans la classe moyenne élevée et dans l'oligarchie, il y a un racisme qui est très présent depuis, en fait, au moins une cinquantaine d'années. Et puis ce racisme-là a été fortement sorti quand les milices sont descendues dans le parc pour sortir les gens des bidonvilles. Alors, ces affrontements-là se sont sommés, en fait, par ces milices-là qui sont rentrées dans les parcs, qui ont mis le feu aux tentes. En mettant le feu aux tentes, évidemment, ça a soulevé des colères, mais sont arrivés en chantant l'hymne national et puis ont attaqué avec des bâtons, des pierres, des fusils les gens qui étaient dans le parc. Donc, encore une fois, c'était surtout des immigrés de la Bolivie et du Paraguay qui occupaient pour avoir accès à des maisons. Donc, je disais, ça s'est soldé par 4 morts. Un des morts, un jeune de 19 ans, en fait, avait été déjà battu sérieusement, emporté dans une ambulance quand l'ensemble des milices ont attaqué l'ambulance, ont sorti l'homme qui était dans l'ambulance et l'ont battu à mort sur place. Et puis, suite à ça, évidemment, c'est l'horreur totale, il est mort. Mais en plus, on a la personne de l'ambulance qui a fait une attaque nerveuse et puis qui est maintenant internée. Donc, on voit une situation très grave. On peut se demander comment ça se fait que ça a été que le gouvernement a laissé aller cette violence-là, cette escalade de violence-là, et comment a pu être permis qu'une partie de la population de classe moyenne d'Argentine puisse attaquer de manière aussi violente des gens qui sont dans une situation totalement précaire. Ce qui se passe en ce moment, puis qu'il faut voir, c'est que on a au pouvoir en ce moment à Buenos Aires, Macri, qui est le nouveau maire, en fait. Et lui, c'est un gars de la droite, une personne qui est très fort sur l'entrepreneuriat et en particulier dans l'immobilier. Et donc, cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est augmenter et justifier l'augmentation de la répression dans les bidonvilles. D'ailleurs, a été donnée l'autonomie à toutes les unités de police pour leur donner le feu vert, en fait, dans les types d'actions qu'ils peuvent mener au niveau de la répression dans les bidonvilles. Alors, on voit ici une manœuvre politique très forte qui a été utilisée par Macri pour dire, regardez, comme les méchantes personnes qui sont dans les bidonvilles viennent usurper nos terres, nos parcs, puis voyez comment la population elle-même est en désaccord avec ce... manœuvre politique qui s'est soldée par 4 morts et des trentaines de blessés. Donc, une situation qui est vraiment très grave. Il y a eu très peu des demandes des personnes, des cités qui ont été prises en considération, seulement qu'elle allait augmenter un petit peu l'accès à l'eau courante et puis qu'elle allait donner un peu plus d'accès à l'électricité, des choses comme ça, mais rien de très sérieux. Donc, c'est une situation, comme je disais, qu'on voit comment elle a pu dégénérer, comment elle peut être utilisée justement pour générer une justification politique pour augmenter la répression dans les bidonvilles en général. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, c'est toujours cette même situation-là où les gens qui sont au pouvoir dans les oligarchies de l'Argentine, c'est comme on a vu dernièrement au Brésil, à la place de régler le problème social et économique, vont essayer de régler le problème par les répressions. La réponse pourquoi ils font ça est assez simple, c'est tout simplement que ça leur coûte moins cher, mais c'est c'est aussi lié avec une espèce de discrimination et de racisme qui est vraiment important. Et puis à partir de là, plutôt que de voir le problème comme provenant d'une situation économique qui a généré une désoccupation énorme dans le pays de l'Argentine et qui a fait qu'il y a des bidonvilles énormes qui sont apparus, on va plutôt voir ça comme des gens qui individuellement n'ont pas réussi, donc comme ça, c'était des bons à rien finalement s'ils n'ont pas de travail, alors qu'on sait très bien que la manière selon laquelle fonctionne l'entreprise capitaliste, c'est justement exclusif. On va chercher les travailleurs qu'on a besoin, puis ceux qu'on n'a pas besoin, ben, qui restent dans la misère. Donc, on ne cherche absolument pas à régler le problème social en construisant des maisons, en faisant des politiques qui créent la démonopolisation des ressources, la démonopolisation des mainmises des multinationales sur les ressources de l'Argentine et la nationalisation, évidemment, de plein d'entreprises comme celle qui était le pétrole, qui a été privatisée dans les années 90. Plutôt, on paye les policiers pour faire une répression énorme dans ces bidonvilles-là. Donc, une situation qui est vraiment, vraiment triste et grave. En ce moment, les violences ont été arrêtées jusqu'à un certain point parce que la gendarmerie a été envoyée dans le parc, mais quand même, la situation reste exactement au même niveau. Puis à partir de là, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui soient mises en place, mais depuis les mouvements politiques de Macri, ce sera très difficile qu'on puisse voir apparaître ça. Donc, comme je disais tantôt, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a 500 000 personnes qui sont sans abri à Buenos Aires en ce moment. Et puis, comme on voit aussi, le problème qu'on peut lier avec ça, c'est justement le manque de travail, le manque de moyens qui est donné à ces populations-là, mais aussi le fait que ces gens-là, justement, plutôt que d'avoir accès à des moyens propres pour se générer ce qu'ils ont besoin pour vivre, sont tout simplement gardés dans le rejet et la marginalité. Après ça, comme je disais tantôt, un problème de racisme en fait qui vient depuis des années, qui a commencé par rapport aux gens, aux populations autochtones qui avaient été délogés de leurs terres et puis qui ont été dans le nord de l'Argentine et qui ont été envoyés jusque dans le sud, plus vers Buenos Aires. Puis maintenant, ces populations viennent de pays qui ont un niveau de pauvreté qui est très grand parce qu'ils sont attirés par certains services publics et situations qui paraissent meilleur au niveau économique en Argentine, mais ces gens-là se retrouvent tout simplement rejetés. Puis là, on avait des témoignages qui provenaient des gens environnant les bidonvilles qui disent, ben, c'est très simple. En fait, les gens qui sont des bidonvilles, on peut les reconnaître physiquement. Pourquoi? Parce que, en fait, la démarcation est très simple. Les autres disent, ils n'expliquent pas pourquoi, mais c'est très simple. Les gens qui sont dans les bidonvilles ont la peau foncée et les gens qui sont dans les quartiers de classe moyenne élevée en Argentine, à Buenos Aires particulièrement, sont des blancs. Donc, on voit ici très fortement comment la situation économique est directement liée avec l'origine ethnique aussi. Et donc, à partir de là, maintenant, ce qu'on peut faire, je dirais, c'est suivre l'information et puis essayer de faire des pressions sur les consulats argentins pour être capable de faire que cette situation-là sorte pour le mieux. Alors, c'était les tristes nouvelles de l'Argentine. On va enchaîner maintenant avec une chanson de Ojos de Brujo avec Hacer Dinero.
Hacer dinero, es tu tarea, hacer dinero, es tu tarea. Optométristes sans frontières lance une collecte de lunettes usagées pour les enfants de Tanzanie. En février 2011, des optométristes bénévoles se rendront dans une école orphelinat de Tanzanie dans le but d'offrir des lunettes de prescription à plus de 600 enfants. Jusqu'au début janvier, apportez vos lunettes à Radio Centre-Ville. Besoin urgent de lunettes d'enfants. Venez porter vos lunettes à Radio Centre-Ville, 5212 Saint-Laurent, coin Fermante. Pour de l'information sur l'organisme, visitez optométristessansfrontières.ca.
Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
L'autodestruction est devenue inévitable. La tension est devenue insupportable. Alors il faut changer de chemin ou signer nos pierres tombales. No. Yeah. Non à tous se divorcer, car tu te dois d'éviter passer l'ignorance de la souffrance de tes frères. Ce monde est à nous, à tous se divorcer, car tu te dois d'éviter passer l'ignorance de la souffrance de tes frères. Alors, prends part au combat, hey, hey. N'oublie pas que la plume ou l'épée n'est pas sans mes pas là. Prends part au combat, hey, hey. N'oublie pas que la plume ou l'épée n'est pas sans mes pas là. Peuple affaibli par l'espoir de la richesse, aveuglé par les qu'on a double tranchant, désillusionné que par sa propre volonté, insatisfait jusqu'à ce qu'elle paye. Tant quand ta tête agit sans même y réfléchir, un automatisme te crée toute logique et passée, déboussolée que par sa propre vanité, insaisissable pour vulgaire.
Gauche, vous écoutiez Le combat de la loi, le groupe La loi du cactus avec Marco Gagliari. Alors, je passe le micro à Blandine.
Et nous sommes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, rejoint par téléphone par Émilie Laliberté de chez Stella, puisqu'on va parler d'une manifestation qui a lieu vendredi en soirée, le 17 décembre. C'est la fameuse rendue traditionnelle Marche des Parapluies Rouges. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Ça me fait plaisir. Merci de nous donner de la visibilité.
Alors, c'est une marche qui va avoir lieu dans 20 endroits du monde ce vendredi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu l'histoire de cette marche?
Bien, en fait, la marche est en réaction face au meurtrier Gary Ridway, qui a été surnommé le Green River Killer. Donc, c'est un meurtrier qui visait particulièrement les travailleuses du sexe aux États-Unis. Et donc, les travailleuses du sexe ont organisé une vigile en 2003. Et les Italiennes ont décidé, par solidarité, d'organiser officiellement la marche des parapluies rouges à Venise en Italie. Donc, elles ont choisi le parapluie comme étant un symbole, évidemment, l'ombrelle rouge symbolise la beauté, mais surtout la capacité de résister aux attaques tant humaines que du ciel. Et donc, on va amener nos parapluies rouges, nous, au coin de la Place des Arts, on va prendre les marches d'assaut, il va y avoir une prise de parole et on va solidairement, pour les travailleurs du sexe, on va dénoncer la violence qui perdure. La violence des lois, la violence de la société, la violence des agresseurs et on va dénoncer l'impunité des agresseurs, que ce soit à Montréal ou partout à travers le monde.
Puis pour un contexte un peu plus canadien, il y a quand même eu des rebondissements médiatiques sur la question du travail du sexe dans les dernières semaines, mois au Canada, puisque plusieurs travailleuses ont revendiqué l'abolition des lois qui empêchent le travail du sexe d'avoir lieu dans des conditions sécuritaires, puisqu'on rappellera que c'est pas illégal en soi le travail du sexe au Canada. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce contexte-là cette année?
Oui, ben effectivement, le travail du sexe est pas illégal au Canada, mais tous les moyens de s'organiser sont criminalisés. Donc, on n'a pas le droit de négocier des rapports sexuels sécuritaires, on n'a pas le droit de travailler de l'intérieur, on n'a pas le droit de s'associer plus d'une travailleuse sexe pour travailler à l'intérieur, augmenter le sentiment de sécurité. On n'a pas le droit d'engager une réceptionniste, un chauffeur, on n'a pas le droit de vivre des fruits du travail du sexe et nos proches non plus. Donc, effectivement, le 28 septembre, il y a une juge, Mme Hinel, qui a décidé de décriminaliser les articles justement qui permettent de s'organiser dans notre travail. Évidemment, c'est une décision qui a été rendue en Ontario. Le ministre de la Justice a déclaré et un juge a déclaré la semaine passée que le jugement serait suspendu jusqu'au 29 avril. Évidemment, il faut que cette décision-là soit confirmée en cour d'appel et qu'elle soit confirmée en cour suprême avant d'être appliquée partout au Canada.
Puis, donc c'était la pointe visible de l'iceberg des nouvelles sur la question du travail du sexe cette année, mais j'imagine à Stella, il y a beaucoup d'autres dossiers, beaucoup d'autres préoccupations qui vous occupent à l'année. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités de Stella?
Oui, certainement. Bien évidemment, on travaille à améliorer la santé, la sécurité et la dignité des femmes qui sont dans le milieu, femmes travesties transsexuelles. Et donc, nous, à Stella, on prend la personne telle qu'elle vient en respectant ses besoins, ses demandes. Donc, si ça veut dire de l'outiller afin qu'elle reste dans l'industrie et qu'elle améliore ses conditions de travail, on va la soutenir dans cette voie-là. Si la personne nous demande de l'outiller pour sortir du milieu, on va également la soutenir dans cette voie-là. On travaille à offrir des soins de santé avec Médecins du Monde. Donc, on offre une clinique médicale dans nos locaux. On amène également notre infirmière sur le terrain, sur la rue particulièrement, dans l'épicerie. Donc, elle donne des soins directement. On l'amène également dans les bars de danseuses, les salons de massage pour offrir du dépistage et des vaccinations contre les hépatites A et B. On offre du matériel sécuritaire aux femmes, que ce soit des condoms, des gants de latex, du lubrifiant, des seringues, du matériel de consommation. Mais sachez que c'est pas tout le monde qui consomme pour travailler, c'est pas tout le monde qui travaille pour consommer. Et donc, on distribue aussi la liste des agresseurs. Qui, malheureusement, il y a toujours des agressions à Montréal. On la publie, nous, depuis plus de 15 ans sur une base mensuelle. Et malheureusement, comme les femmes ont le statut de criminelles, elles dénoncent pas nécessairement les agressions sexuelles, les vols, les voies de fait à la police parce qu'elles ont peur d'être celles qui vont être arrêtées. Et donc, c'est sûr que nous, on soutient les femmes dans leur démarche pour dénoncer la violence. On les accompagne pour aller à l'hôpital, faire la trousse médico-légale. On les accompagne en cours. Les besoins sont très variés et on y répond. L'année passée, Stella a fait plus de 6600 interventions auprès des femmes travestis transsexuelles qui sont dans l'industrie. Et on poursuit. On est une petite équipe, mais on est motivés. On est motivés par des convictions d'égalité, de droit, d'accès à la protection et de dignité. Donc, ça nous nourrit et on poursuit notre travail.
Et donc, il y a un rendez-vous ce vendredi, une marche plus une grosse soirée.
Oui, effectivement, on s'est dit, bon, le 17, au Québec, à Montréal, il fait froid. Hein, les Italiennes n'avaient pas nécessairement cette contrainte-là. Donc, cette année, au lieu d'amener tous nos membres, les travailleurs du sexe, nos alliés, l'année passée, on avait marché, on arrête souvent dans des lieux symboliques où il y a eu des agressions, on prend souvent la rue Sainte-Catherine ou dans Schlager. En fait, cette année, on s'est dit qu'on allait prendre d'assaut la Place des Arts. Donc, c'est plus une action, une prise de parole. Ça va avoir lieu à 7h30, coin Jeanne-Mance et Sainte-Catherine. Et ensuite, on va marcher juste pour 2-3 coins de rue et on se rend au Café Cléo. Il va y avoir un cabaret commémoratif avec une prise de parole, plusieurs petits spectacles de la musique. Bref, on se rassemble et on va être ensemble pour dénoncer la violence.
Ça fait combien d'années que ça a lieu à Montréal?
C'est la 7e journée qu'on célèbre nouveau.
OK, donc depuis le début, ça a commencé à avoir lieu en même temps à Montréal puis en Italie?
Oui.
Donc c'est un rendez-vous vendredi 17 aux portes de la Place des Arts à 19h30. Et évidemment, ne pas manquer la soirée au Café Cléopâtre. Je suis quand même un peu déçue parce que j'ai toujours apprécié de pleine d'admiration de voir le monde faire cette manifestation dans des bancs de neige avec des talons aiguilles pour certaines et certains.
Oui, effectivement. C'était on en a tout le temps
qui brave la neige.
Oui, tout à fait.
Alors, ce serait une prise de parole publique, n'a pas manqué, à 19h30 au port de la Place des Arts. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Alors, plus d'informations sur le site web www.chezstella.org pour avoir des informations sur les campagnes de Stella et donc sur la marche des parapluies rouges. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer vendredi. On va donc prendre une petite pause musicale en bas à gauche. On vous retrouve ensuite sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Il est 4h du matin, j'suis encore sur le chemin. J'travaille pour mon gagne-pain et c'est mon destin. Jamais couché, dans une heure il va travailler. Je m'assis auprès de lui, je me demande s'il s'ennuie. Vivre dans la nuit,
c'est de même que je veux faire ça.
Vivre dans la nuit,
c'est une job comme toutes les autres.
Il faut que je pense à lui. Va m'oublier, vive dans la nuit, il est l'heure d'aller me coucher. Assis à une chaise, il est temps que je me déniaise. Comment lui expliquer qu'il devra l'accepter? À toi de décider de rester. Pense à lui, car il va m'oublier.
en bas à gauche. Enjeu et mobilisation.
Samedi passé, si vous vous promeniez au centre-ville, vous pouviez croiser plusieurs manifestations, en fait, mais notamment une manifestation organisée par le projet Retour au Bercail, projet qui fait partie du réseau de la Commission populaire, un réseau qui se mobilise contre les lois injuste de la guerre, de la fameuse dite guerre au terrorisme. Donc parmi ces luttes qui ont été bien connues, il y a eu la lutte contre les certificats de sécurité qui continuent toujours. D'ailleurs, Mohamed Arkat, une des personnes qui est victime du certificat de sécurité, a vu son certificat de sécurité confirmé la semaine passée. Il y a eu une mobilisation d'urgence vendredi passé. Et il y a aussi d'autres cas, comme le cas de M. Abou Soufiane Abdelrazik. M. Abou Soufiane Abdelrazik est un Soudanais d'origine qui vit au Canada depuis plusieurs années, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne, donc qui est un Canadien vivant à Montréal. Il y a quelques années, il est allé visiter sa mère qui était malade au Soudan, et à sa grande surprise, il lui a été impossible de revenir au Canada puisqu'il a été arrêté et maintenu en détention pendant plusieurs mois. Sans comprendre exactement quelles étaient les sources et les accusations. Et il a fini par être interrogé par des agents du SCRS et également des agents du FBI. C'est un élément important parce que ça amène la question de la complicité du Canada, c'est-à-dire que c'est des agents du SCRS qui ont mené des interrogatoires auprès d'une personne qui était torturée en prison au Soudan. C'est une complicité directe, en fait, dans des actes de torture. Pendant plusieurs années, donc, il a été détenu. Il a ensuite fini par obtenir sa libération, étant donné qu'il n'y avait aucune charge contre lui, il n'y a jamais eu aucune accusation précise. Donc, il a fini par être lâché. Mais, entre-temps, il s'était retrouvé sur une liste qui lui empêchait de prendre un avion. Donc, des listes d'interdiction de vol, entre autres, plus d'autres informations. Fait que c'est la liste 1267 des Nations Unies qui, en fait, n'est pas directement liée exclusivement à l'aviation, mais c'est une liste qui est contrôlée par par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, en fait, quand on se retrouve sur cette liste, on ne sait pas trop comment, pour en être retiré, il faut qu'il y ait un consensus de tous les membres du Conseil de sécurité. Donc, il faut que votre problème personnel soit rendu assez important pour que toutes les personnes sur le Conseil de sécurité de l'ONU jugent important de travailler là-dessus. Alors, quand on est quelqu'un de bien connu ou quand on est un ex d'un gouvernement ennemi qui s'est finalement rallié aux États-Unis, ça va mieux que quand on est Abou Soufiane Abdelrazik qui n'est, semble-t-il, pas une prise de choix pour les lois anti-terroristes. Donc, M. Abdelrazik s'est retrouvé dans une situation qu'on pourrait qualifier de no man's land au sens littéral. Il s'est retrouvé réfugié à l'ambassade canadienne. Donc, l'ambassade canadienne s'occupait de le loger, de le nourrir, refusait de lui donner un passeport. Et donc, c'est l'absence de passeport qui l'empêchait de voyager. Donc, il a passé plusieurs mois comme ça, coincé dans cette espèce d'imbroglio administratif. C'est ainsi que s'est formé le projet Retour au Bercail, qui a organisé plusieurs mobilisations à Montréal, dont notamment des mobilisations comme des télétons téléphoniques, où est-ce que les gens pouvaient donner de l'argent à M. Abdelrazik pour qu'il achète un billet d'avion. Alors, beaucoup de billets d'avion ont été achetés, puisque d'après les lois antiterroristes, toute personne qui aide quelqu'un qui est sur la liste 1267 à obtenir un billet d'avion peut être considéré comme terroriste lui-même. Donc, c'était comme une façon de proposer aux gens, en donnant $1, $2, de se rendre complice, en fait, pour dénoncer l'hypocrisie complète de ces lois-là. Et que dans les faits, on ne poursuit pas un citoyen canadien né ici, blanc et avec une situation financière. Et c'est si on s'appelle Abou Soufiane Abdelrazik qu'on peut se faire mettre dans des situations pareilles. Donc finalement, l'année passée, M. Abdelrazik a obtenu de revenir au Canada à force de pression. Il y a eu des pressions très fortes et donc il a commencé une plainte contre le gouvernement canadien pour tout ce qu'il a subi. Cependant, il est encore sur cette fameuse liste 1267 des États-Unis qui a entre autres pour conséquence d'empêcher d'avoir accès à un compte en banque et donc ou en fait d'avoir ses avoirs gelés. Alors la manifestation de samedi avait notamment pour but de dénoncer les complices de ce régime de terreur en fait qui est imposé sur des gens sans qu'il n'ait jamais aucune accusation, aucun accès à des preuves. Ce sont des simples suppositions qui font apparaître des noms par erreur parfois, en fait par confusion de noms sur ces listes et c'est à peu près impossible de s'en sortir si on n'est pas un gros poisson d'importance. Donc la manifestation s'est dirigée à plusieurs endroits à Montréal pour dénoncer notamment et rentrer dans le complexe Desjardins pour dénoncer la complicité des caisses Desjardins qui ne sont d'ailleurs plus les caisses populaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, et qui ont gelé les avoirs de Abou Soufiane Abdelrazik. Donc on est allé pour vous, l'équipe d'En bas à gauche, à cette manifestation, puis on a pris quelques enregistrements, alors on va les écouter. Puis si vous voulez plus d'informations sur son cas, mais aussi sur bien d'autres cas, n'hésitez pas à aller sur le site web de la Commission populaire, www.commissionpopulaire.org. J'en profite également pour vous dire que au mois de février, il va y avoir un forum sur le sujet « Quelle sécurité ?» notre sécurité, qui va reprendre tous les thèmes de cette organisation contre la dérive sécuritaire. Ça sera les 4 et 6 février 2011. Alors sans plus tarder, on écoute ce bref enregistrement de la manifestation comme si vous y étiez.
On est là aujourd'hui pour exprimer publiquement notre désaccord et notre opposition au fait que M. Abou Soufiane, un Montréalais, citoyen canadien, un être humain, est sujet à des sanctions qui sont complètement oppressives, hors des fondements de justice. Et donc on veut apporter à la connaissance des Montréalais cette situation-là. On croit que toute personne, toute Montréalais, tout Canadien, Canadienne doivent être conscientes de ce que se passe à cet homme, le fait que étant sujet à ces sanctions, et c'est contre la dignité, c'est contre les fondements de la justice, c'est contre les principes de la moralité. Et on ne peut pas permettre qu'au nom de la sécurité nationale, que nos droits et nos libertés sont traités comme s'ils sont d'importance secondaire ou bien d'une importance, on ne peut pas permettre que nos droits et libertés soient écrasés au nom de la sécurité nationale, en fait.
Oui, on est ici, c'est un endroit un peu symbolique parce qu'on était ici l'année passée dans la lutte pour la liberté d'Abdelrazik, puis on va être ici cette année, on va être ici l'année prochaine, jusqu'à quand il reste des gens qui sont polis.
Alors c'était un enregistrement pris samedi dernier lors de la manifestation en soutien à Abou Soufiane Abdelrazik, donc pour une manifestation qui bravait le froid. C'est maintenant l'heure de l'anti-hebdo, la chronique des gens qui ont jeté leur télévision par la fenêtre et qui se cherchent d'autres activités. Alors, la première activité commence dans 1h15 à 11h. Alors, surtout, dépêchez-vous, écoutez-nous encore 10 minutes et rendez-vous. C'est une manifestation organisée par le RECLAC, le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Leur site web rclalq.qc.ca, je vous promets, je vais vous le répéter. Donc, aujourd'hui à 11h, assez les cadeaux aux proprios, on veut un registre des baux. Donc, une action pour revendiquer un registre obligatoire des baux. À quoi ça sert un registre? Ça sert à contrer les hausses de loyers abusives le 1er juillet, parce que si on connaît le coût du loyer précédent, avant le nôtre, avant de louer, on peut efficacement exercer un recours à la régie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tous les ans, les propriétaires n'ont pas le droit d'augmenter comme il leur semble, comme bon leur semble, les loyers, mais il y a des calculs assez précis du montant qu'on a le droit d'augmenter chaque mois et chaque année, et il s'applique lors d'un changement de locataire. Alors, un registre des baux viserait à pouvoir rendre plus efficace le contrôle du coût des loyers pour éviter que la flambée continue. Alors, le rendez-vous, c'est à 11h, au 1425 René Lévesque Ouest, métro Lucien Lallier, ce qui se trouve être les bureaux du centre-ville, de la régie, du logement. Et donc, pour plus d'informations, rclalq.qc.ca. Également ce soir, alors à 19h, c'est le lancement du numéro 37 de la revue À bâbord, dossier principal de cette édition, au travail, organisation du travail et assujettissement. Il y a également un très bon article sur l'histoire de Wikileaks en arrière des dernières grandes nouvelles sensationnelles dans les médias. Alors le rendez-vous pour aller voir le lancement de la revue À bâbord, c'est à 19h à la Casa Obscura au 4381 rue Papineau à Montréal. Entrée libre. Il n'y a pas tant que ça d'activité pour le reste de la semaine. Alors, vendredi, je vous le rappelle, on parlait tantôt avec Émilie Liberté de chez Stella. Rendez-vous à la Place des Arts à 19h30 pour une vigile et une prise de parole publique. Et à 21h au cabaret Cléopâtre pour un cabaret commémoratif au 1230 rue Saint-Laurent. Les portes ouvrent dès 20h30. Également, vendredi, une manifestation en soutien à Wikileaks, justement, donc qui va... j'ignore en fait ce genre de mobilisation qu'on retrouve sur Internet, et les gens n'ont pas jugé bon de préciser qui l'organisait, mais on imagine que des gens vont se retrouver devant l'université Concordia, ou en fait la rue juste à côté, au coin de Bishop et de Maisonneuve, à 13h, vendredi 17 décembre en après-midi. C'est une manifestation de soutien donc aux initiatives de publication des fuites gouvernementales, et également précisons qu'il y a quand même tout un contexte très intéressant qui se manifeste, puisque le site Wikileaks en tant que tel n'existe plus, mais il a des milliers de miroirs à travers le monde, c'est-à-dire que ce n'est plus un site central, mais c'est devenu un réseau complet que se sont réappropriés littéralement des centaines voire des milliers de personnes. Et d'ailleurs aujourd'hui titrait les journaux qu'un groupe qui s'auto-détermine comme Anonymous produit des attaques contre PayPal, Visa et Mastercard, qui ont coupé les comptes de Wikileaks. Alors il y a vraiment une, comme le nomme la presse, une guérilla du web qui s'organise, qui est assez intéressante à observer. Alors tenez-vous au courant. On vous passera également dans le temps des fêtes un spécial sur Wikileaks à en bas à gauche. Prochain événement, lundi 20 décembre, le SCRS, nos gentils terroristes à nous. Lancement montréalais de ce livre écrit par Marie-Jo Lady. Ça va être un 6 à 8 au Café Cagibi, au coin de votre radio préférée, 54 90 Saint-Laurent. Ça raconte l'histoire d'un homme kurde accusé par le Service canadien de renseignement et de sécurité d'être un terroriste. Et Marie-Jo Lady était accidentellement présente lors de la première entrevue de Suleiman avec le SCRS. Donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Suleiman Govan, qui est rédacteur de Yeni Hayat, une source de nouvelles en ligne basée à Toronto. Aussi Maria Forti, qui s'implique au projet Retour au Bercail, donc pour le cas de Monsieur Abou Soufiane Abdelrazik, également Jaggi Singh, membre de Personne n'est illégale, de Solidarité sans frontières et de la CLAC. Donc c'est un rendez-vous. Alors c'est ce qui conclut l'anti-hebdo.
Oui, c'est tout le temps qu'on a. Alors c'est également la conclusion de cette émission d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. On vous rappelle que vous pouvez avoir accès accès à toutes nos chroniques ainsi qu'à des articles sur les thèmes de nos chroniques sur notre site web ou notre blog, en fait, en bas à gauche .wordpress.com. Et vous pouvez écouter les chroniques, lire les articles et bien sûr nous rejoindre en nous écrivant ou en nous laissant des commentaires sur le blog. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve mardi.
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message Prudence au volant. Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Est-ce lundi soir ou mardi matin? La ville semble dormir et pourtant, savais-tu qu'entre 3 et 6 heures AM, l'espace s'ouvre sur des univers fantastiques et jouissifs? Des légendes oubliées, des vortex encore plus explorés, parfois même un peu tordus. Piloté par Alain Caron, l'émission L'Académie attise déjà ta curiosité. Il te faut l'écouter en direct ou en podcast à radiocentreville.com.
Le rendez-vous des grands de la chanson française, c'est tous les jeudis à 14h à l'émission Plaisir Thématique avec Jean-Édouard Mervilus sur les ondes de Radio Centreville, le 102,3 5FM.
Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens à toi, mon amour. Mon amour. Princesse. Princesse. Allez, réveille-toi. Princesse.
Quand un enfant ne lit pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation.
Radio Centre-Ville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.